VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Nouveau progrès dans le processus de paix pour mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud. Le gouvernement et les rebelles sud-soudanais ont signé mercredi à Khartoum un accord préliminaire sur le partage du pouvoir. Le point avec Irénée Herman Umbo.
Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, le document signé porte sur toutes les questions relatives à la période de transition et sur le partage du pouvoir. Salva Kiir restera le président du Soudan du Sud et Riek Machar sera le vice-président. Il y aura 4 autres vice-présidents répartis parmi les autres groupes politiques. Le diplomate soudanais a indiqué que la question de partage du pouvoir au niveau des régions et des départements est encore en discussion. Selon le texte adopté, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Le Parlement comptera 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Le ministre soudanais des Affaires étrangères a également annoncé qu'une commission indépendante se chargerait de décider du nombre de provinces du Soudan du Sud. Il précise aussi que l'accord définitif doit être signé le 5 août 2018.
Élection présidentielle au Mali, nouvelle violence dans le centre du pays à l'approche du scrutin de dimanche. Au moins 3 civils peuls ont été tués dans la région de Mopti mercredi lors d'une attaque attribuée à des chasseurs traditionnels. Les chasseurs d'Ozo ont encerclé le village de Somena et ils ont égorgé tous les hommes avant de les jeter dans un puits, a déclaré Abdoulaziz Diallo, président de la principale association peul du pays. Les Peuls dénoncent régulièrement des exactions à leur encontre de la part de ces chasseurs au nom de la lutte contre les djihadistes. Ils accusent l'armée et les autorités de passivité, voire même de complicité face à ces agissements. Plus de 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes dimanche pour la présidentielle. Les Maliens peuvent soit reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta, élu en 2013 après l'intervention internationale contre les djihadistes, soit accorder leur faveur à un de ses 23 concurrents, dont le leader de l'opposition, Soumaïla Cissé. Et toujours au Mali, l'Union européenne a décidé de financer la construction d'un nouveau quartier général pour la force conjointe du G5 Sahel à Sévaré, région de Mopti, dans le centre du pays. C'est ce qu'a annoncé mercredi la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Les détails avec Ekia Badou.
L'ancien QG de cette force multinationale avait été détruit lors d'une attaque djihadiste fin juin qui avait fait 3 morts. Lancée en 2017, la force conjointe rassemble 5000 hommes répartis en 7 bataillons, 2 pour le Mali et le Niger et 1 pour le Tchad. Le Burkina Faso et la Mauritanie restent chacun sous leur uniforme national. Les 414 millions d'euros promis à la force lors d'une conférence internationale des donateurs organisée à Bruxelles le 23 février tardent à se matérialiser. Néanmoins, la force conjointe du G5 Sahel entend bien garantir la sécurité, le développement de la région, qui est également un investissement dans notre sécurité, a dit Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne. La reconstitution du quartier général de Sévaré confirme l'engagement déterminé de l'Europe aux côtés des pays du G5 pour permettre aux institutions de contrôler pleinement leur territoire et de lutter contre le terrorisme et les trafics d'êtres humains, d'armes et de drogue, a expliqué Madame Mogherini. L'Union européenne a accordé un soutien financier de 100 millions d'euros à la force conjointe G5 Sahel.
Au Niger, remise en liberté des activistes de la société civile, condamnés à une peine de 3 mois de prison avec sursis pour provocation d'attroupements non armés lors des manifestations de protestation contre la loi des finances 2018. Les ex-détenus se disent tous déterminés à continuer la lutte. Au micro d'Abdoul Razak Idrissa, notre correspondant à Niamey, écoutons Ali Idrissa, un de ces activistes.
C'est sûr que nous n'allions pas nous arrêter à ce niveau. Et la lutte ne fait que commencer. D'abord, par rapport à ce qu'on dénonçait, ce pourquoi ils nous ont arrêtés, c'est-à-dire la mauvaise gouvernance, le népotisme, et qui est allé plus loin aujourd'hui. Le monsieur n'a même plus confiance en son entourage. Il prend son fils pour mettre dans les affaires de l'État. C'est tout ça là que nous allons redoubler d'efforts pour combattre. Nous n'allons ni faiblir, ni cesser. Nous avions même laissé une partie de nos affaires en prison pour y retourner tant qu'ils veulent, selon leur agenda de règlement de compte.
Ali Idrissa, un militant de la société civile au Niger.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Relations entre l'Inde et l'Afrique. Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé à Kampala, en Ouganda, que son pays envisage d'ouvrir 18 nouvelles ambassades sur le continent africain. Les détails avec Raissa Girondin.
Le Premier ministre indien a fait l'annonce lors d'un discours au Parlement ougandais. L'Inde va ouvrir 18 ambassades en Afrique. Des ouvertures qui se feront dans les 3 ans à venir, selon un responsable indien. Pas de précision sur les pays concernés. Narendra Modi a également annoncé le don d'un dispositif de soins pour le cancer et des prêts pour un montant de 200 millions de dollars destinés à financer des projets d'infrastructures et environnementaux. En Ouganda, l'Inde est en compétition en Afrique avec la Chine. Devenue un partenaire commercial majeur, l'Inde détient 29 ambassades sur le continent contre 50 pour la Chine. Le Premier ministre indien a aussi rendu hommage au président ougandais Yoweri Museveni pour avoir accueilli les Asiatiques d'Ouganda qui avaient été expulsés par le despote Idi Amin Dada, lui-même évincé ensuite par Museveni. Après s'être rendu précédemment au Rwanda dans le cadre de sa tournée africaine, Narendra Modi se trouve en Afrique du Sud pour le sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement des BRICS à Johannesburg.
Zimbabwe, les élections présidentielles et législatives du 30 juillet, les premières dans le pays depuis la chute de l'ex-président Robert Mugabe en novembre dernier, sont sur le point d'être frauduleuses, a dénoncé ce mercredi le chef de l'opposition Nelson Chamisa, qui n'entend pas néanmoins les boycotter. Pour une analyse, Nicolas Pino a joint à Harare John Stewart, un ancien activiste des droits de l'homme.
Bien qu'il y ait 23 candidats pour la présidence, il y a réellement deux partis qui ont réellement du support, donc le ZANU-PF et l'alliance du MDC, qui regroupe, je crois, 8 éléments qui se sont regroupés ensemble pour se présenter contre le ZANU-PF. À ce moment, en fait, la situation est assez calme, hein, c'est-à-dire que il y a des éléments difficiles. Les médias ne sont pas tout à fait ouverts, surtout le média de l'État qui est contrôlé par les ZANU-PF. La commission électorale du pays doit être tout à fait indépendante, mais a fait des décisions et des actions qui semblent qu'il y a au moins quelques éléments de ces actions qui ont préféré Mnangagwa. Donc on a quelques tensions là-dessus.
Pour certains, il ne fait aucun doute que Mnangagwa sera réélu, étant donné, bien évidemment, qu'il contrôle tous les leviers du pouvoir. Qu'en pensez-vous?
La résistance des voteurs a été faite avec des identités biométriques, ce qui a fait que c'est beaucoup mieux que dans les dernières élections, dans les années passées. Mais il y a des problèmes, par exemple, le bulletin de vote pour l'élection du président doit être une liste alphabétique. Selon des noms, donc 23 noms, avec le nom du parti, l'emblème du parti et la photo du candidat, mais la commission électorale a décidé de présenter une page avec 2 colonnes, 14 sur une colonne et 9 sur l'autre, qui fait que Mnangagwa est au sommet de la 2e colonne et non pas le 15e dans le seul colonne. Donc on a une situation où l'opposition pense que la Cour électorale a favorisé Mnangagwa.
Quel est l'état du Zimbabwe depuis que Mnangagwa a pris le pouvoir après la chute de Robert Mugabe?
On a eu une situation plus ouverte. La majorité des électeurs ont moins que 40 ans. Et donc, une question sur les générations, c'est très important. On verra si ça va faire quelques pressions sur les résultats de cette élection. La situation a été beaucoup plus ouverte ces derniers mois que dans les élections des dernières décennies parce que Mnangagwa a retiré en fait la police et d'autres éléments de la structure de sécurité du pays pour permettre les oppositions de se présenter dans les campagnes un peu dans le pays.
John Stewart, joint à Harare au Zimbabwe par Nicolas Pino. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.